faire une présentation PowerPoint, tout simplement parce que je pense pas que vous aurez l'opportunité d'avoir un ordinateur et un rétroprojecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la présence ici dans cette salle, et ça témoigne de l'intérêt que nous avons tous pour le Bénin. Je m'appelle Dinéric Adéchian, je suis consultant financier et je suis également beaucoup actif sur les réseaux sociaux, tout simplement en ce qui concerne la veille citoyenne. Aujourd'hui, on ne peut plus gouverner comme auparavant, dans une certaine opacité. Donc nous devons, tout un chacun de nous, travailler dans ce sens afin d'œuvrer pour non seulement éveiller les consciences, mais également faire part à nos concitoyens de tout ce qui se passe et de toutes les décisions qui peuvent être prises dans l'intérêt suprême du Bénin. Alors, parce que très souvent, on nous prend pour des opposants à la gouvernance de Talon. Je dis, moi je ne suis pas venu dans ces salles aujourd'hui pour être un opposant de Talon, mais surtout pour œuvrer pour que le Bénin aille mieux et le Bénin soit mieux gouverné. Mais on ne peut pas gouverner un pays sans le respect de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? C'est le respect de nos institutions. Alors le 6 avril 2016, lorsque le président Patrice Talon y prenait le pouvoir, il s'est dit garant de respecter nos institutions. Et je vais aller encore beaucoup plus loin derrière. Lorsqu'il a fait un meeting en novembre 2015, où il a rencontré la diaspora, j'étais présent dans la salle. Je ne sais pas si certains parmi vous étaient présents aussi. Donc quand on a écouté son discours, on s'est dit, ben voilà quelqu'un qui stigmatise la gouvernance de Yahya Boni, qui remarque en tout cas, comme beaucoup d'entre nous, les insuffisances de la gouvernance de Yahya Boni. Donc, à l'accession au pouvoir, ça devrait changer. Il devrait avoir un comportement beaucoup plus responsable, beaucoup plus vertueux. Manifestement, au cours des 12 derniers mois, on a assisté à une série, en tout cas, de décisions qui ont été retoquées par la Cour constitutionnelle, aujourd'hui qui est vue comme le seul rempart pour la restauration de l'état de droit dans notre pays. Alors, à ce titre-là, on a pu identifier au cours des un an de gouvernance de Talon, on a pu identifier aujourd'hui une dizaine, voire une douzaine de décisions qui ont été défavorables au pouvoir actuel. À ce titre-là, on a eu, par exemple, la violation des libertés individuelles en ce qui concerne les étudiants, notamment dans les universités. Il y a eu un certain nombre de problèmes. Manifestement, le gouvernement n'étant pas dans une approche de trouver des solutions consensuelles avec les étudiants, a pris un décret interdisant toute réunion et manifestation au niveau du campus des associations étudiantes. Ben, cette décision-là, elle est contraire à la Constitution, et dans une décision 17-065 du 16 mars 2017, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution ce décret abrogeant interdisant plutôt les manifestations étudiantes. C'est très important quand même de le mentionner parce que on sait le rôle qu'a joué les étudiants dans l'avènement de ce régime-là, notamment la présence aujourd'hui parmi les membres du gouvernement de certains leaders qui ont beaucoup œuvré avec les étudiants pour l'avènement de Talon. Donc aujourd'hui, retourner le bâton contre ces étudiants qui ont soutenu et contribué à l'avènement du régime de Patrice Talon, c'est quand même une gageure, c'est quand même triste pour notre pays. Il faut aussi souligner qu'il est quand même de jurisprudence constante ces genres de décisions contre les libertés individuelles. Patrice Talon et son gouvernement, ce n'est pas la première fois qu'on a assisté à ce type d'interdictions qui ont déjà été rétoquées par le passé, par la Cour constitutionnelle. Dans cette même veine, on ne devrait plus aujourd'hui se retrouver dans ces situations-là. Beaucoup d'entre nos aînés dans la salle se souviennent des manifestations qu'il y a eu au temps non seulement du PRPB, même après l'avènement de la démocratie à l'issue de la conférence des forces vives de la nation, les luttes étudiantes ont contribué à améliorer le quotidien des étudiants dans notre pays. Interdire les rassemblements de ces étudiants-là
constitue aujourd'hui un recul important de notre démocratie, surtout pour un gouvernement qui est à sa première année d'exercice. Alors, comme autre violation de la Constitution, on a eu les décisions concernant ce que je mets dans la catégorie des violations individuelles, notamment celles qui concernent l'ancien directeur de l'ORTB. Je veux citer M. Stéphane Todomain, qui a été limogé dans des conditions vexatoires, mais pour lequel la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable justement à sa requête dans sa décision DCC 16091 du 7 juillet 2016 pour retoquer le gouvernement afin de pouvoir réhabiliter M. Todomain dans ses droits, puisqu'il avait un mandat qui courait jusqu'à fin novembre 2016, mais il a été relevé de ses fonctions bien plus tôt, avant l'échéance de son mandat. Deuxième autre décision qui va dans ce sens-là, c'est le décret portant nomination des membres de l'ARCEP. Alors, ce qui est important de souligner dans ce cas-là, c'est le même cas de figure avec le mandat de M. Todomain qui a été écourté par la nouvelle équipe du gouvernement de la rupture qui, au mépris des conventions, au mépris des règles légales et constitutionnelles, a éconduit l'ancienne équipe à la tête de l'ARCEP pour lequel le mandat n'était pas encore terminé à la porte. Alors, on a eu également d'autres décisions, manifestement, qui sont plus de l'ordre procédurier. Ces décisions-là, elles concernent notamment le travail d'intérêt général. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que notre Constitution, à travers un certain nombre d'articles, confère au chef de l'État un délai afin de pouvoir solliciter le contrôle de conformité des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais elle encadre également ce contrôle de conformité dans le délai. Manifestement, dans trois décisions données, notamment la loi portant sur le travail d'intérêt général en République du Bénin, la loi cadre sur l'aménagement du territoire et tout récemment la loi portant partenariat public-privé, qui a été pour une fois déjà retoquée par la Cour constitutionnelle, comme quoi c'était une loi qui était inapplicable. Ce qui est quand même paradoxal, c'est tantôt le gouvernement sollicite le contrôle de conformité, tantôt il le sollicite hors délai, tantôt il ne le sollicite pas du tout. Donc dans sa décision DCC, DCC 17039 du 23 février 2017, la Cour constitutionnelle a sanctionné le gouvernement au motif qu'elle n'a pas sollicité le contrôle de conformité de la loi portant partenariat public-privé. C'est quand même important de pouvoir le souligner que non seulement on a eu déjà des cas ou des situations où le gouvernement n'a pas sollicité le contrôle de conformité dans les délais, mais postérieurement à cette décision, elle choisit de ne pas soumettre certaines lois, certaines lois au contrôle de conformité avant sa mise en application. Mais ce qui est encore d'autant plus grave, c'est que entre-temps, il y a eu des contrats qui ont été signés sous l'emprise d'une loi qui a été rendue inapplicable. Allez-y comprendre aujourd'hui l'issue de ces contrats-là, et surtout des co-contratants, et ensuite les dommages que ça peut avoir sur les finances publiques à la suite. Quelques autres points de décision qui vont à l'encontre, en tout cas, de notre Constitution, c'est la décision en ce qui concerne la transparence. La transparence, pourquoi ? Parce que lorsque un nouveau gouvernement s'installe, ils ont l'obligation de faire la déclaration de patrimoine. Manifestement, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a reçu très tardivement, voire 9 mois après la prise de fonction du gouvernement de Patrice Talon, a reçu les déclarations de patrimoine. C'est-à-dire qu'entre le 6 avril 2016, où le gouvernement a pris fonction, et jusqu'à novembre 2016, il s'est écoulé banalement 8 à 9 mois où il n'y avait aucune déclaration de patrimoine. C'est quand même inquiétant pour un gouvernement qui, non seulement a fait campagne sur la transparence, sur le respect de la Constitution.
Que faire par la diaspora ? Oui.
Oui, je vais revenir là-dessus. Merci. Alors, il y a également une loi...
Deux minutes.
Ok, je vais aller très vite. Excusez-moi de faire un peu l'énoncé de toutes ces décisions-là. Ça permet un peu de comprendre le contexte. Hein. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à une inflation des décisions de la Cour constitutionnelle contre le régime actuel. Et ce n'est pas bon en termes de politique et en termes d'image, surtout pour un pays qui a quand même 27 ans d'exercice démocratique et de pratique surtout de l'exercice du contrôle de conformité au niveau des lois. Alors, quelques autres décisions qui sont un peu symptomatiques, ben, c'est le comble, c'est aussi la décision qui a été rendue en défaveur du ministre de la Justice. Je vais citer M. Joseph Diogounou, qui est à la fois ministre de la Justice, mais qui a méconnu, pour employer le terme exact de la décision de la Cour constitutionnelle, qui a méconnu la Constitution. C'est quand même assez, assez marrant aujourd'hui qu'on dise qu'un ministre de la Justice d'un pays, il méconnaît la Constitution. Qui plus est, il est agrégé de droit. Donc je pense que vous pouvez en tirer les conclusions sur l'image que ça peut donner. Alors tous ces éléments-là, pour vous dire quoi? Pour vous dire aujourd'hui, quel est le rôle aujourd'hui que nous, en termes de diaspora, nous pouvons avoir justement dans ce travail que nous menons? Mais déjà, la présence ici de chacun d'entre nous, c'est pour informer tout un chacun, parce que nous ne pouvons pas tous, pour des raisons diverses et variées, nous enquérir de suivi dans le temps de toutes ces décisions constitutionnelles. On a un travail de sensibilisation, mais aussi ce qu'il faut savoir, à travers l'article 122 de notre Constitution, que je vous cite ici, « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. » Celle-ci doit sursoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Fin de citation. Alors, pourquoi je vous ai lu cet article? C'est parce que j'ai eu déjà par le passé à l'expérimenter de saisir la Cour constitutionnelle, bien qu'étant en France. Je l'ai saisi dans le cadre justement de la... c'était dans le cadre de la LEPI. Voilà, puisque lors des élections législatives de 2015, les Béninois de la diaspora n'avaient pas été sollicités pour pouvoir participer au vote. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas exclure de manière volontaire des citoyens béninois sous le prétexte que parce qu'ils ne résident pas sur le territoire national. Donc dans ce sens-là, la Cour constitutionnelle a pris une décision, je ne me rappelle plus exactement, mais je pouvais vous la retrouver, pour dire que l'étranger ne constitue pas une circonscription électorale pour les élections législatives. Mais les Béninois de l'étranger doivent être enrôlés dans le cadre de la LEPI. Parce que c'est vrai que ce n'était pas le régime de Patrice Talon qui était au pouvoir, c'était le régime de Yahya Boni, mais on aurait pu, pour des raisons diverses et variées, ne pas enrôler les Béninois de la diaspora dans le cadre de la LEPI. Nous devons continuer ce travail, en tout cas de veille citoyenne, afin que nos populations, on puisse ne serait-ce que respecter le droit dans notre pays. Parce que, qu'on le veuille ou non, si le droit n'est pas respecté, on aura des conséquences dommageables pour notre pays. Le président Patrice Talon, il veut lever des milliards pour la réalisation de son pacte, mais ça ne pourra pas se faire si on n'a pas des instruments juridiques sécurisés pour attirer les investisseurs. Je vous remercie.
Merci, cher frère Deschien. Je pense que ça va être donc mon tour. Je vais vous parler donc un tout petit peu, pendant 10 minutes, un peu moins peut-être, de la communication et de la mobilisation. Donc, je suis comme l'Henri Gobert Misséon, je suis informaticien, je suis un spécialiste des bases de données Oracle, et je suis un peu ce qu'on appelle communément un technophile, de par donc mon métier. Donc, ma communication va s'articuler autour donc, de trois volets. Le premier volet, ce sera donc pour parler très rapidement
le développement donc prodigieux d'Internet et de télécommunications, mais surtout du point de vue donc, d'outils de veille démocratique. Le deuxième volet, ce sera donc les réseaux sociaux avec les pièges de la désinformation et des rumeurs. Et la dernière partie, ce sera donc les difficultés que les citoyens rencontrent dans la maîtrise de ces outils-là. Vous l'aurez constaté, je ne vous apprends rien en vous disant donc que ces 20 dernières années, l'informatique, les télécommunications et Internet ont connu un développement prodigieux. Aujourd'hui, nos téléphones ne sont plus seulement des appareils qui téléphonaient, mais c'est également des appareils de communication, ce sont ce que j'appellerais donc de véritables bureaux ambulants. Vous aurez constaté donc également que non seulement Internet s'est développé, mais il y a donc une inflation des sites Internet et de toutes les applications, ce qu'on appelle donc comme les applications d'Internet, les sites de rencontres, les Facebook, la messagerie instantanée, la messagerie électronique tout court, etc. Très important. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que si au XXe siècle, le journal papier, était considéré donc comme un organisateur collectif, aujourd'hui, on peut sans risque de se tromper, dire donc que les forums Internet, les forums WhatsApp sont devenus de véritables organisateurs collectifs, mais également de véritables éducateurs collectifs. Et vous en êtes sans doute rendu compte. Depuis les dernières élections présidentielles dans notre pays, les forums WhatsApp sont devenus pratiquement un outil de veille de tous les jours. Notre communauté compte aujourd'hui près d'une dizaine de forums Internet. Le meeting de ce soir a été préparé en collaboration avec 3 forums donc de Béninois, dont 2 responsables sont présents donc dans cette salle. Le premier que je citerai, c'est le forum Bénin Diaspora Dobou, dont l'administrateur et le responsable principal est M. Petros Adler Zinoué, ici présent. Je vous le présente. Le deuxième forum, c'est le forum Peuple Béninois Dobou, dont le coordinateur est M. Lokosa Honoré, ici présent. J'en suis l'un des supports techniques pour l'aider, l'épauler sur tout ce qui est côté technique, dans les inscriptions, les désinscriptions, etc., la présentation, la charte également. Le troisième forum qui a participé, donc collaboré à la tenue de ce meeting ce soir, c'est le forum Front Souverain, dont le responsable est actuellement donc au Bénin. Le Front Souverain, c'est une organisation qui est un peu un parti politique en cours de construction. Vous verrez, le site n'est pas encore développé, mais ils comptent donc sur le forum plus de 250 personnes. Et tous les jours, il y a à peu près une centaine de messages qui s'échangent. Et tous les week-ends, tous les dimanches, ils choisissent un sujet donc de débat. Et jusqu'à 0h, c'est sur ce sujet-là donc qu'ils débattent. Devant ces développements prodigieux donc d'outils qui nous facilitent la vie, il y a quand même des pièges, il y a des difficultés. Je parlerai donc rapidement des pièges. J'en ai dégagé essentiellement 2. Le premier piège, ce sont donc les rumeurs. Aujourd'hui, un bébé peut se lever et vous dire que Rollins est décédé. Et très rapidement, dans les 10 minutes, des millions de personnes peuvent avoir accès à cette information-là. Et vous vous rendez compte, après donc le tour du monde, que c'est une information fausse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire donc qu'il faudra aborder les informations avec un peu plus donc de sérieux. Et ne pas donner un peu comme certains journalistes, donc à la recherche donc, de scoop, je serai donc le premier donc, à donner l'information, etc. En général, ça fait mauvais effet. Et puis le deuxième risque, ou le deuxième danger, c'est le danger donc, de la désinformation. Pratiquement tous les gouvernements donnent donc, de la désinformation. La guerre froide a été émaillée de façon quasi permanente par la désinformation. On fait quoi? Autre chose, justement donc pour détourner les citoyens de la réalité de ce qui se fait. La plupart donc, des groupes de gangsters, la PEC, etc., également donc, utilisent ces outils-là. Je ne vais pas donc aller donc, dans plus de détails. Je vais essayer donc de voir un peu très rapidement, et nous allons revenir sans doute donc, dans les débats sur les perspectives. Vous l'aurez remarqué, autant ces outils se sont très rapidement développés, autant beaucoup de citoyens ont du mal à suivre le rythme et à maîtriser les outils. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit site internet, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Quand on dit adresse de site internet, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Mais lorsque vous dites à un citoyen aujourd'hui ordinaire lambda, donnez-moi l'adresse d'un article sur un site précis, article que vous avez lu, il commence donc à se chercher. Il ne voit plus donc la différence. Or, il y a une différence nette. Je vais vous faire un anecdote. Un jour, je suis sorti donc du bureau, c'était à peu près vers 18h. J'ai constaté donc sur mon forum WhatsApp que quelqu'un a commencé donc à écrire un article. Je suis rentré chez moi au bout donc d'une heure et demie. Et 2 heures après, la personne était encore en train d'écrire donc son message. Tout simplement parce qu'il ne maîtrise pas l'outil. Cela veut dire quoi? Cela veut dire donc tout simplement que si nous voulons nous approprier ces outils-là et les utiliser donc à bon escient, il nous faudra probablement donc songer à des séances de formation, d'auto-formation, d'entraide entre nous, bien sûr. Et j'ai la faiblesse donc de programmer donc avec mes amis que d'ici là, nous allons commencer modestement à essayer donc d'organiser de petites séances pour que nos compatriotes maîtrisent donc mieux ces outils-là, parce que c'est des outils qui vous permettent de gagner beaucoup de temps. Autre chose aussi, c'est que ces outils, tels que par exemple les forums WhatsApp, ont besoin d'être couplés avec les ordinateurs, couplé avec les sites internet, couplé avec les murs Facebook, entre autres, ce que fait déjà donc le forum Bénin Diaspora Debout, c'est-à-dire faire en sorte donc qu'un message qui est posté donc sur le forum puisse donc apparaître donc sur les murs Facebook donc, de la même organisation ou de la même association, etc., etc. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Bon. Mais il serait intéressant également donc, que tous ces forums, dans la mesure du possible, tissent des passerelles donc, entre eux pour pouvoir donc, s'échanger donc, les informations, pour pouvoir donc, collaborer, partager les expériences, etc. En fait, ce sont donc de véritables outils donc, de collaboration participative dans le cadre donc, de la veille citoyenne, de la veille démocratique et surtout d'une construction d'un vivre ensemble partagé donc, par l'ensemble des citoyens. Je vous remercie. Sans plus tarder, si vous le permettez, sauf donc si le podium a quelque chose à dire, nous allons donner la parole et je ne le vois pas. Allez, d'accord, ok.
Une question peut-être.
Voilà, donc nous allons. Tiens, il est là. Donc nous allons rapidement lui donner la parole. Il arrive au bon moment. Donc, cher frère Léon Soubadji, donc le président du Parti pour la libération donc, du peuple, membre fondateur du Front pour le succès patriotique. On va prendre la parole, nous lui allouons donc une dizaine de minutes pour nous passer un message. Il pourra intervenir également donc sur tout ce qui a été dit jusque-là avant qu'on aborde donc les débats. 10 minutes. Voilà. Oui, effectivement, donc il vient donc du Bénin, il vit et travaille donc au Bénin, il vient donc du Bénin.
Okay. Merci beaucoup, chers amis. J'ai décidé de prendre part activement à cette rencontre parce que notre pays comme le Bénin est en danger et nous avions déjà vu très tôt depuis un an et nous avons été aux élections présidentielles, nous avons été les tout premiers à susciter, à soutenir la candidature de monsieur Leonel Zinsou et nous avons estimé que quand on perd les élections d'office il faut s'apprêter à faire l'opposition afin de proposer des solutions alternatives pour le pays. Nous avons fini par créer le Parti pour la libération du peuple. Et au début, lorsque nous avons démarré ce combat, beaucoup nous prenaient pour des apatrides, pour des gens qui étaient contre le développement de notre pays. Mais nous avons essayé quand même de maintenir le cap. Et le Parti pour la libération du peuple a joué un rôle très important dans le cadre de la mise en place du Front pour le succès patriotique. Mais d'abord, mes salutations particulières et pleines de gratitude aux membres du comité du Front pour le succès patriotique de la diaspora. C'est la preuve que si nous acceptons de nous mettre ensemble, on peut faire beaucoup de choses pour notre pays. Le Front pour le succès patriotique a été créé pour faire barrage au projet de loi portant révision constitutionnelle. Il compte à ce jour une trentaine d'organisations politiques, sociales et syndicales. Nous avions signé récemment notre charte d'éthique et de valeur. On était 26 à la signer. Et après ça, il y a eu d'autres qui nous ont rejoints. Et cette semaine, nous avons validé notre règlement intérieur parce que dès la semaine prochaine, nous allons descendre sur le terrain et aller en contact direct avec les populations dès la semaine prochaine. Et le projet de loi sur la révision, ça a été dit tout à l'heure, nous avons réussi à lui faire barrage avec le 23 députés patriotes le 4 avril 2017. Ça n'a pas été facile parce que le combat était très dur. Et affronter quelqu'un comme Patrice Talon à l'intérieur du pays, c'est très difficile. C'est facile peut-être de le faire sur les réseaux sociaux, mais nous qui vivons sur le terrain, c'est très dur pour nous parce que nous sommes traqués. Notre sécurité est menacée. La libre circulation des personnes et des biens, c'est très difficile pour nous. Même pour nous voir, pour se réunir, c'est très difficile pour se réunir. Je ne vais pas vous expliquer les conditions dans lesquelles le front mène le combat au pays. Il fallait être à notre place pour savoir, pour comprendre que nous devons tous méconnaître notre pays. Et qu'il n'y a plus la liberté aujourd'hui de manifestation dans notre pays. Il n'y a plus la liberté de presse dans notre pays. Toutes les voies critiques sont traquées par tous les moyens, légaux et illégaux. Mais nous avons décidé de mener ce combat pour libérer notre pays. Nous avons fait échec au projet de la révision, mais nous avons constaté que le problème du Bénin demeure. Le problème du Bénin, c'est la gouvernance. Donc, il fallait poursuivre le combat. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau du front de continuer afin de mettre à nu, mettre fin à la gouvernance autocratique, à fameuse prédatrice et mafieuse de M. Patrice Talon et de son clan. Comme vous le savez, le bilan des 12 premiers mois du chef de l'État est catastrophique. Tous les indicateurs aujourd'hui au Bénin sont au rouge. 12 mois de bradage du patrimoine national, 12 mois de liquidation sauvage des sociétés et offices d'État, 12 mois de suppression de plus de 10 000 emplois dans l'administration publique, notamment dans le secteur agricole, 12 mois de reconstruction de l'empire industriel et financier du président de la République et de son clan, 12 mois de ruge et de rage, 12 mois de gestion d'un Bénin englué dans le chômage chez les jeunes, la précarité chez les femmes et qui peine à aller de l'avant. 12 mois de déguerpissement sauvage et de casse inhumaine de lieux de petits commerces dans nos villes et campagnes, renforçant du coup la misère dans les ménages. 12 mois de navigation à vue, de rétropédalage récursif et d'improvisation, 12 mois de violation de la Constitution, des tests qui régissent la décentralisation et d'autres lois républicaines, 12 mois de conflits d'intérêts, 12 mois de marchés gré à gré illégaux, 12 mois d'adoption de lois scélérates et liberticides au Parlement, 12 mois de braquage des entreprises privées, 12 mois de pression fiscale et de traque des opérateurs économiques, 12 mois de prise en otage du port de Cotonou, de l'aéroport de Kadiaoun, du coton, des transports d'Akadjou, 12 mois de restriction des libertés fondamentales, 12 mois de dictature, d'intimidation à l'égard des voix critiques, 12 mois d'intoxication, de désinformation et de manipulation, 12 mois d'isolement du Bénin sur la scène sous-régionale, régionale, continentale et internationale, 12 mois de pillage des caisses de l'État, 12 mois de népotisme, 12 mois de mépris à l'égard des Béninois vulnérables et des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, qui est transformée en une caisse de résonance, une chambre d'enregistrement, le prolongement de l'exécutif et la Cour constitutionnelle. 12 mois de chute dans tous les classements mondiaux, de e-business, cabinet Ernst & Young, Reporters sans frontières, Transparency International et consorts. 12 mois de création, tous azimuts de taxes, alors que le pouvoir d'achat des Béninois s'est détérioré. 12 mois d'écrasement des pauvres, d'arrogance et d'affairisme. 12 mois de défilé de mode présidentiel et de gestion du Bénin sur les réseaux sociaux. Mes chers compatriotes de la diaspora, la liste des dérives, des actes de malgouvernance, de corruption et d'impunité est longue. En plus de l'endettement à vitesse exponentielle, du trésor public depuis avril 2016 et du chômage, la décomposition de la société béninoise et le déclassement de notre pays ne sont plus un secret pour personne. Le désastre est sanglant. Cela fait 12 mois que le Bénin coule, au vu et au su d'une société dite civile partisane à 99% et d'une Assemblée nationale aux ordres. Le Bénin est bloqué, c'est clair. À nous de le débloquer. Aux jeunes d'oser pour le sauver. Nous avons toutes les clés pour éviter le mur. Ce n'est pas impossible de réformer le Bénin. C'est juste qu'il faut savoir faire le job et il nous faut une volonté pour le Bénin. La méfiance des Béninoises et Béninois vis-à-vis des hommes politiques est à son sommet. Des mois de promesses non tenues par le gouvernement, de problèmes non réglés, des discours lénifiants et d'engagements vains ont creusé un dangereux fossé entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Ce désastre à la fois moral et sentimental, cet océan de déception met en péril les fondements de notre République. 27 ans de pratique démocratique. Le paysage politique béninois n'a jamais été aussi déréglé. Les valeurs républicaines, l'éthique et la morale ont déserté le forum. La politique est devenue un business, un fonds de commerce juteux pour les mêmes acteurs depuis le renouveau démocratique. Le Bénin est ainsi divisé, inquiet, meurtri et incertain. La politique du gouvernement Talon en 12 mois n'a rien résolu, rien amélioré. On en arrive à se demander à quoi elle sert. Le chef de l'État pense d'abord à lui-même, à ses intérêts égoïstes et inavoués, à ses sociétés, à son entourage. Pendant ce temps, ses compatriotes meurent de faim. Les enfants sont à la maison faute de moyens pour payer les frais de scolarité. Monsieur Patrice Talon ne fait que des voyages d'affaires aux frais du contribuable. Il casse tout ce qui a été construit avant lui, mais il ne propose rien de sérieux en retour. Aucune action ne s'inscrit dans la durée. Les résultats sont insignifiants. Les Béninois doutent des compétences et des connaissances de ceux qui les dirigent. Cet échec patent de l'action publique enracine une déception profonde chez nos compatriotes. Le mandat présidentiel, conquis sur des bases extravagantes, fabrique la seule chose dont on ne puisse être certain, la déception. Et donc, c'est la sanction qui suit, éternel recommencement. Après UBF et FCBE, c'est maintenant BMP, bloc de la majorité parlementaire, j'allais dire Bénin Multi Prestation. Les acteurs n'ont pas changé, les mêmes depuis environ 3 décennies. Les ennemis de la République, ce sont les commerçants politiques. Je suis tout à fait d'accord avec le magistrat Michel Adjaka qui parle de majorité anti-républicaine et anti-démocratique, un bouclier anti-missile judiciaire pour certains députés auréolés de scandales. Comment pouvons-nous sortir de ce piège? Comment pouvons-nous dépasser cette culture aberrante qui nous détruit, qui maintient nos compatriotes dans la misère, encourage la corruption, les crimes économiques, l'impunité et la remplacer par une autre qui pourrait sauver la patrie? Quelle réorganisation pour le Bénin? La problématique est peut-être moins difficile qu'on ne le croit. Rien ne peut être entrepris sans une prise de conscience du mal qui nous ronge, de cette démagogie à laquelle notre crédulité donne vie. Une seule solution, nettoyer immédiatement et complètement la classe politique béninoise, la débarrasser de tous les virus, les cancers, les poisons qui tuent la démocratie, le développement et la prospérité et favorise la misère et le chômage afin de redonner confiance, redonner espoir à notre peuple. Il nous faut une classe politique et une assemblée nationale digne du Bénin. C'est possible, chers compatriotes de la diaspora. Le Bénin est beau. Il a mis des décennies à se construire, à s'apaiser et à se sentir une et un et indivisible. Le Front pour le sursaut patriotique veut l'accompagner vers le meilleur. J'exhorte la diaspora béninoise de France et d'ailleurs à se mobiliser pour que nous puissions ensemble redresser le Bénin. Redresser le Bénin, c'est tourner résolument le dos à tout ce qui pourrait nous éloigner d'une bonne gouvernance visible par tous et salutaire pour le développement de notre pays. Voilà le combat du parti pour la libération du peuple. Le combat pour le Front pour le sursaut patriotique, la route pour construire un espace politique qui incarne l'intérêt général des Béninois sera certainement longue. Mais nous devons y croire, nous battre par tous les moyens, parce que vos compatriotes, vos parents au pays souffrent beaucoup et on les empêche de s'exprimer. Comme je le disais tout à l'heure, 10 000 emplois ont été supprimés en 12 mois. Vous prenez tous les secteurs essentiels au niveau de la vie économique de notre pays, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, il y a au moins 10 000 emplois. 1045 supprimés au début. Actuellement, il y a 1117 au niveau de l'ONS seul. Au niveau de la Sonapra, ils sont 300. On les a jetés dans la rue, comme s'ils étaient des animaux, comme s'ils n'étaient pas des Béninois. Je voudrais vous inviter à vous battre par tous les moyens. Vous devez tout faire au niveau de la diaspora, ce qui est possible. S'il faut organiser des marches sur notre ambassade ici, s'il faut organiser des sittings, s'il faut aller lui rendre visite dans ses hôtels ici à Paris, je vous en prie, faites tout ce que vous pouvez faire. Moi, je viens de passer 3 semaines en Europe. J'ai eu à rencontrer des députés européens. J'ai eu à rencontrer des autorités au plus haut niveau de la France. Et nous allons tout faire pour faire entendre la voix du Bénin. La voix du Bénin qui ose. La voix du Bénin qui ose pour sortir le pays des sentiers battus. La voix du Bénin qui ose pour barrer la voie aux vendeurs d'illusions. La voix du Bénin qui ose pour dire à M. Patrice Talon qu'il n'a pas le titre foncier du Bénin. De toutes les façons, la révolution, s'il le faut, nous allons la faire pour libérer totalement notre pays. Je vous remercie.
Merci, cher frère Léon Boubadi, qui nous a bouffé 2 minutes. Merci quand même. Oui, bienvenue. Sans plus tarder, donc je vais passer complètement.